Les mystères du Palais-Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 13. Le mari de Claudine. Les aboiements furieux d'un gros chien retentirent à l'intérieur. Une voix masculine demanda d'un ton rogue et menaçant. « Qui va là ?» Jeanne continua de gémir et ne répondit pas. La même voix qui venait de parler articula un juron des plus énergiques et reprit. « De par tous les diables, passez votre chemin, sinon j'ouvre la porte et je vous fais manger par mon chien. » Cette nouvelle menace augmenta, si cela était possible, la terreur de Jeanne. Elle essaya de se lever et de s'enfuir, mais elle ne réussit pas même à se soulever. Seulement, ses pleurs devinrent des sanglots convulsifs et ses gémissements se changèrent en cris de détresse. En même temps, une lourde clé tournait dans la serrure et les aboiements féroces redoublaient d'intensité. Ceci n'était point de nature à diminuer l'épouvante de Jeanne. La porte s'ouvrit. Heureusement, le propriétaire de la maison tenait en main l'extrémité d'une corde attachée au collier de son chien. En voyant, ou plutôt en devinant, une femme étendue sur le seuil, il tira à lui cette corde, ce qui empêcha le farouche animal, dogue de la plus haute taille, de se précipiter sur la malheureuse enfant qu'il aurait infailliblement mise en lambeaux. « Pourquoi êtes-vous là ? » dit le maître d'un ton un peu radouci. « Qu'attendez-vous et que demandez-vous ? » L'émotion et l'agitation de la jeune fille ne lui permettaient pas de répondre. En face de ce silence inexplicable pour lui, le paysan, défiant et soupçonneux, battit le briquet, alluma une lampe et approcha la lumière du visage de Jeanne. Il connaissait de vue la jeune fille et il la reconnut aussitôt. Ses manières, brusques et presque brutales jusqu'alors, devinrent à l'instant même respectueuses. Il se tourna vers l'intérieur de la maison et il s'écria « Hé, Claudine ! Hé, ma femme, lève-toi vite et viens ici !»« Pourquoi faire ?» demanda Claudine du fond d'une pièce reculée. « C'est la demoiselle à madame de Chambard, la dame du petit Chastel, qui est en train de se mourir à notre porte. » En même temps, il prit Jeanne dans ses bras, il la souleva et il la porta dans la première pièce, où il l'assit dans un grand fauteuil. Claudine, jeune paysanne fort accorte et des plus avenantes, ne tarda guère à arriver. Tous deux alors, le mari et la femme, prodiguèrent à Jeanne les soins les plus touchants. Grâce à ces soins, la jeune fille recouvra bien vite un peu de présence d'esprit et de calme. Elle en profita pour raconter ce qui venait de se passer et pour demander aide et assistance afin de pouvoir retourner au petit Chastel et de s'y assurer si tous les malheurs qu'elle redoutait s'étaient effectivement accomplis. Quand elle eut achevé son récit, le paysan lui dit en hochant la tête. « Je suis tout à votre disposition, mademoiselle, mais vous êtes bien sûre de n'avoir point rêvé ?»«
Rêvé ?» répondit Jeanne. « Comment aurais-je rêvé ? Oh non, par malheur ! Non, je ne dormais pas !»«
Ce cri sinistre dont je vous parle a bien réellement frappé mon oreille ?» Et j'ai bien trouvé fermer la porte de ma chambre. Ah, croyez-moi, croyez-moi, le malheur est dans la maison de ma mère.
C'est ce que nous saurons dans un instant, dit le paysan. Laissez-moi réveiller seulement quelques voisins qui nous accompagneront et qui témoigneront au besoin de ce que nous aurons vu.
Agissez à votre gré, répliqua Jeanne, mais au nom du ciel, hâtez-vous.
Je vous demande 5 minutes. Et le paysan sortit, laissant la jeune fille en compagnie de Claudine, sa femme. Les 5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il revint à la tête de 4 autres villageois, vigoureux gaillards, aux joues pleines et colorées, aux robustes épaules, frottant de leurs gros poings fermés, leurs yeux encore remplis de sommeil. La jeune Claudine avait prêté à Jeanne une paire de ses plus beaux souliers, des bas de coton blanc très fins à coins rouges, et un grand mantelet de futaine grise orné d'un vaste coqueluchon. Jeanne mit les bas et les souliers, s'enveloppa dans le mantelet et rabattit le capuchon sur sa tête. Les hommes portaient des torches allumées. Deux d'entre eux soutinrent de leurs bras robustes la marche chancelante de Jeanne et tous ensemble prirent à la clarté des flambeaux le chemin du petit Chastel. À mesure qu'ils approchaient, l'impression de terreur produite sur l'esprit de la jeune fille semblait se renouveler et s'agrandir, et une sorte de tremblement nerveux s'emparait de ses membres. Au moment où l'on atteignit la porte d'entrée, Jeanne était littéralement défaillante.
Ce n'était point une petite affaire que de pénétrer dans la maison. La porte était de taille et de force à résister à un assaut véritable, et au premier coup qui tenta de l'ébranler, on entendit résonner des ferrures solides. On rencontra une résistance presque invincible. Il fallait cependant triompher de ces obstacles. Un levier de fer, dont le mari de Claudine s'était muni à tout hasard, fut introduit entre les jointures de la porte. Trois jeunes gens robustes pesèrent de tout leur poids sur l'extrémité de ce levier. Les verrous grincèrent avec un bruit lugubre, la serrure cria, les planches de chêne se disjoignirent et éclatèrent. Enfin, la porte céda en produisant un fracas pareil à celui du tonnerre. Alors le mari de Claudine s'approcha de Jeanne, que l'un des paysans soutenait. « La maison est ouverte, notre demoiselle, » lui dit-il. La jeune fille fit un geste qui signifiait « Entrez les premiers, je vous suivrai dans un instant. » Les enfants ravivèrent le feu de leurs torches. Ils franchirent les quelques marches du perron et ils pénétrèrent dans le vestibule. Soudain, l'un d'eux, celui qui marchait en avant, recula en poussant une exclamation d'effroi et de stupeur. La torche qu'il portait s'échappa de ses mains et s'éteignit en touchant le sol. Il venait de glisser dans une mare de sang. Il se trouvait face à face avec le cadavre de Madeleine. Jeanne, au moment où le cri du paysan arriva jusqu'à elle, sembla recouvrer comme par enchantement ses forces disparues. À son tour, elle s'élança dans le vestibule et elle s'arrêta, frissonnante et éplorée, devant le corps déjà raidi de celle qui avait été sa mère. Elle se laissa tomber à genoux auprès de ce corps. Ses mains jointes tremblaient, ses lèvres étaient agitées d'un mouvement convulsif. Ses yeux, fixes et largement ouverts, semblaient regarder sans voir. Elle eût voulu pleurer, mais elle ne pouvait pas. Jeanne personnifiait ainsi, de la manière la plus complète et la plus touchante, non point l'ange ému de la douleur, mais l'ange sombre du désespoir, de ce désespoir terrible et concentré qui ne se manifeste ni par des cris, ni par des larmes. Les paysans, effrayés de ses yeux secs et arides et de ce visage aussi pâle que celui de la morte, s'étaient retirés à quelques pas et ils attendaient dans un silence respectueux. Enfin, Dieu eut pitié de Jeanne. Ses yeux se mouillèrent de larmes brûlantes, son cœur trop plein et qui allait éclater déborda en sanglots convulsifs, et ses pleurs soulagèrent la jeune fille comme une pluie d'orage ranime la nature embrasée. Elle souleva dans ses bras le cadavre qui gisait devant elle, couvrit de baisers dévorant ses yeux éteints et ses lèvres froides, et elle s'écria d'une voix décomposée, semblable à celle des somnambules endormis par le sommeil magnétique. « Oh, ma mère, ma mère, ma mère !» À cette exclamation déchirante, succéda un instant de silence. Puis, le mari de Claudine s'approcha de Jeanne et lui dit lentement, avec un embarras manifeste. « Pour sûr, notre demoiselle, vous vous tuerez à vous faire comme ça de la peine, et ce n'est pas le mal qui vous arrivera, qui pourra faire revivre cette pauvre dame que voilà. » Jeanne releva la tête et demanda « Vous croyez qu'elle est morte? Bien morte? Morte, sans espoir ?» Le paysan ne répondit pas. « Vous vous taisez ?» continua la jeune fille. « Eh bien, je vous dis, moi, que je ranimerai ma mère. » Et Jeanne reprit le cadavre dans ses bras et le serra contre son cœur, comme si elle eût conservé, en effet, l'espérance de la ramener à la vie. Mais tout d'un coup, ses yeux s'agrandirent et elle jeta un cri d'horreur. Pour la première fois, elle apercevait la poignée sanglante du stylet dont la lame traversait la poitrine de sa mère. Pour la première fois, elle commençait à croire à un assassinat. Car jusqu'alors, elle avait attribué à un accident, dont les causes lui échappaient, la catastrophe qui la faisait orpheline. Une seconde pensée, rapide comme l'éclair, pénétra en ce moment dans son esprit et sembla l'illuminer d'une lueur sinistre. Ses lèvres murmurèrent un nom. « Raoul !» Le cadavre de sa mère s'échappa de ses bras et elle bondit jusqu'à la porte de la salle basse, qu'elle ouvrit violemment. Chapitre 14. L'exemple. La lampe de nuit répandait toujours sa clarté pâle dans cette vaste pièce. Monsieur de la Tremblay semblait plonger plus que jamais dans un sommeil léthargique. Jeanne courut au lit. Elle saisit Raoul par les deux mains et le secoua avec toute la force dont elle était capable. En ce moment, elle ne se souvenait guère du naissant amour qu'elle éprouvait pour le jeune homme. Elle ne voyait, elle ne pouvait voir en lui que le meurtrier de sa mère. Raoul se réveilla à demi, mais les vapeurs épaisses de l'opium engourdissaient à la fois ses sens et son intelligence. Il balbutia quelques paroles entrecoupées, il referma les yeux, il laissa retomber sa tête et se rendormit. Ah ! S'écria Jeanne avec une sorte de rage et en désignant Raoul au paysan qui était entré dans la chambre en même temps qu'elle. Son sommeil est trop profond pour être véritable. Cet homme est l'assassin. Les paysans entourèrent aussitôt le lit avec des démonstrations furibondes. Il faut le pendre, disaient les uns. Il faut le jeter à l'eau, reprenaient les autres. Et déjà, ils se mettaient en devoir de traîner vers la porte le malheureux jeune homme qui ne s'éveillait point au milieu de toutes ces violences. À ce spectacle, il se fit de nouveau une révolution dans le cœur de Jeanne. Si pourtant ce n'était pas lui, pensa-t-elle. Et elle s'écria « Arrêtez !» Les paysans obéirent. « Et j'ai accusé trop vite !» leur dit la jeune fille. « Je ne suis sûre de rien, sinon de l'odieux attentat qui vient d'être commis sur ma pauvre mère. Celui que de fatales circonstances désignaient à mes soupçons est peut-être innocent. Et d'ailleurs, fut-il coupable, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire justice de son crime. Que l'un de vous, je vous en conjure, court chercher un médecin. Ce médecin nous dira si ce sommeil étrange est une comédie infâme ou une léthargie véritable. Oui, oui, répondirent les paysans tout d'une voix, et ils replacèrent le corps de Raoul sur le lit d'où il venait de l'arracher. En même temps, le mari de Claudine prit sa course vers Saint-Germain afin d'accéder au désir que venait d'exprimer la jeune fille. Un des villageois resta de garde dans la salle basse, et les autres, improvisant avec des chaises une sorte de brancard, sur lequel ils posèrent le cadavre de Madeleine, transportèrent à l'étage supérieur leur funèbre fardeau et étendirent la morte sur cette même couche où elle avait reposé vivante. Jeanne, agenouillée, pria jusqu'au moment où plusieurs coups frappés à la porte annoncèrent le retour du mari de Claudine. Celui-ci ramenait avec lui non seulement un médecin, mais encore un exemple et une escouade de soldats de la maréchaussée qui venaient s'assurer du prétendu coupable et qui prirent aussitôt possession de toutes les issues de la maison. Le hasard avait permis que le médecin appelé fût précisément celui-là même que Jacques était allé chercher quelques jours auparavant pour donner des soins à son maître. Il examina d'abord le cadavre de Madeleine. Il enleva le poignard resté dans la blessure et il déclara que la mort avait dû être presque instantanée. Interrogé par l'exemple, il répondit qu'il ne croyait point à un assassinat, mais à une catastrophe accidentelle, et il basait son opinion sur la position de l'arme meurtrière et sur la façon dont elle avait traversé la poitrine de part en part en brisant un des os de l'épaule. L'exemple et le médecin descendirent ensuite à la salle basse en priant Jeanne de les accompagner. « Cet homme dort-il réellement ?» demanda l'exemple au médecin en désignant Raoul. Le médecin appuya sa main sur la tempe et sur le cœur du chevalier. Il écouta le bruit de sa respiration et il répondit « Oui, il dort, et d'un sommeil aussi profond qu'incompréhensible. » Tout en parlant, il aperçut sur la petite table auprès du lit la tasse qui contenait encore quelques gouttes de la potion. Il mouilla son doigt dans ces quelques gouttes, il le porta à ses lèvres, puis il ajouta « Ceci, du reste, m'explique ce sommeil. « Mademoiselle, demanda-t-il ensuite à Jeanne, voulez-vous me dire qui a préparé cette potion ?»
« Moi, monsieur, répondit la jeune fille.
« D'après quelle ordonnance ?»«
D'après celle que vous-même aviez laissée ici. »
« N'y avez-vous rien ajouté ?»«
Si, deux ou trois cuillerées d'une liqueur dont ma pauvre mère m'avait vanté les bons effets. »«
Quelle est cette liqueur ?»«
Je l'ignore.
Vous en reste-t-il ? » ?»«
Oui, les deux tiers de la fiole, à peu près. »«
Voulez-vous me montrer cette fiole ?»
Jeanne alla la chercher aussitôt. Le médecin en respira l'odeur. Ensuite, il se tourna vers l'exemple.
« Ah, je le crois bien » s'écria-t-il, « que ce jeune homme est endormi. » Une dose énorme du plus puissant des narcotiques, l'opium, l'a plongé dans un sommeil qui ressemble à la mort. « Mademoiselle ?» demanda l'exemple à son tour. « Quel but pouvait avoir votre mère, en cherchant à endormir ce jeune homme, ainsi qu'elle semble l'avoir fait ?» Elle se trompait sans doute elle-même au sujet des vertus réelles de la liqueur dont elle m'avait conseillé l'emploi. « À quelle heure avez-vous administré la potion préparée par vous ?»«
À la tombée de la nuit. »
« Et à quelle heure l'assassinat présumé a-t-il été commis ?»«
Le cri d'agonie de ma pauvre mère m'a arraché au sommeil, il y a tout au plus 2 heures. »«
Dans quelle pièce de la maison l'arme qui a donné la mort avait-elle sa place habituelle ?»«
Dans la chambre de ma mère. »
En ce moment, le médecin intervint. « Monsieur l'exempt, dit-il, je me porterai d'autant plus volontiers caution de l'innocence de monsieur le chevalier de la Tremblay, qu'il est bien loin d'être rétabli d'une maladie presque mortelle pour laquelle je l'ai traité. Mon étonnement tout à l'heure a été profond en le trouvant vivant encore, et sa faiblesse doit être telle qu'il lui serait complètement impossible de faire 4 pas sans soutien. « Votre opinion est à peu près la mienne, répondit l'exemple. Mais enfin, un crime a été commis dans cette maison, et je dois provisoirement m'assurer de la personne, de celui que les premiers soupçons ont paru désigner comme étant le coupable.
« Cependant, dit le médecin,
ne cherchez point à entraver la marche de la justice, interrompit l'exemple d'un ton sec. Puis il ajouta en s'adressant à 2 de ses gens. « Mon devoir m'ordonne de me livrer à de minutieuses investigations. Fouillez donc en conséquence les vêtements et les autres effets du prévenu. » Les hommes de la maréchaussée obéirent à l'instant même. Les recherches ne furent point sans résultat. L'un de ces hommes apportait à l'exemple un portefeuille qu'il venait de trouver dans l'une des poches de l'habit du chevalier, au moment où l'autre ouvrait la valise que nous connaissons et s'écriait à la vue de son contenu
« Que d'or, mon Dieu, que d'or !»
Chapitre 15. Pauvre Jeanne.
L'exemple resta un instant comme ébloui en face de la brillante vision métallique qui frappait ses regards. Après avoir obéi au sentiment d'admiration cupide que la vue des louis et des doubles louis du chevalier ne pouvait manquer d'exciter en lui, il ouvrit le portefeuille qu'un de ses subordonnés venait de lui remettre. Il en tira un parchemin plié en 8 et auquel attenait un large sceau de cire verte suspendu à un ruban de la même couleur. Il déploya ce parchemin et il en parcourut des yeux le contenu. L'aspect de sa physionomie changea aussitôt. De hautaine et d'impérieuse qu'elle était d'abord, elle devint, comme par enchantement, obséquieuse et soumise. Il ôta son chapeau, qu'il avait jusqu'alors conservé sur sa tête, et son regard alla de l'air le plus respectueux du parchemin à Raoul et de Raoul au parchemin. Voici ce qu'il venait de lire. « Nous, Philippe d'Orléans, par la grâce de Dieu, régent de France, à tous ceux que ces présentes verront, mandons et ordonnons de prêter aide et assistance à notre dévoué sujet et serviteur, le chevalier Raoul de la Tremblay, toutefois qu'il jugera convenable de réclamer cette assistance. Défendons en outre à qui que ce soit, et pour quelque motif que ce puisse être, d'inquiéter le dit chevalier de la Tremblay et de l'entraver dans ses actes et ses volontés. Quoi qu'il ait fait, il l'a fait par notre ordre et pour le bien de notre service. En foi de quoi, nous lui avons donné ses présentes, signées de notre cingue et scellées de notre sceau. » Venait ensuite la date et la signature. L'exemple métamorphosé, ainsi que nous venons de le voir, par l'apparition de cette pièce inattendue, reploya avec un soin infini le précieux parchemin, le serra dans le portefeuille d'où il avait été tiré, et fit rentrer le tout dans la poche de l'habit de Raoul. Ensuite, il se tourna vers ses acolytes et leur dit « L'innocence de monsieur le chevalier de la Tremblay m'est surabondamment démontrée. En outre, ainsi que nous l'a prouvé monsieur le docteur, un terrible et déplorable accident a eu lieu ici, cette nuit, mais aucun crime n'y a été commis. Nous n'avons plus rien à faire dans cette maison, et il ne nous reste qu'à regagner Saint-Germain. » Le médecin, fort intrigué de ce qui venait de se passer sous ses yeux, s'approcha alors de l'exemple et lui demanda à demi-voix. « Qu'y avait-il donc dans ce parchemin ?»«
C'est un secret d'État, » répondit l'exemple d'un ton d'importance.
« Un secret d'État ?» répéta le docteur. « Oui, et ne cherchez pas à le pénétrer, je vous le conseille, car il y va de la Bastille, ni plus ni moins. » Au seul mot de Bastille, le médecin était devenu aussi blême que ses malades. Il n'ajouta pas une parole, et jusqu'au moment, qui ne tarda guère, où il quitta le petit Chastel, en compagnie des gens de la maréchaussée et de l'exemple, et il se tint parfaitement quoi, tant il avait peur d'apprendre, sans le vouloir, ce terrible secret d'État dont la connaissance était si dangereuse. Après leur départ, Jeanne resta dans la salle basse, avec le mari de Claudine et les autres paysans que la curiosité avait retenus. Ces braves gens, ne voulant point la troubler dans sa douleur, se retirèrent discrètement l'un après l'autre. Le mari de Claudine demeura le dernier. « Notre demoiselle, » dit-il à Jeanne avec une affectueuse cordialité qui n'excluait point le respect, « m'est avis que vous ne pouvez point passer la nuit, comme cela, dans cette maison, sans personne auprès de vous. Je m'en vas vous amener ma femme Claudine. Elle vous fera compagnie, et elle priera le bon Dieu avec vous auprès de la pauvre dame qui est en haut. » Jeanne prit la main du paysan et la serra. « J'accepte de grand cœur, mon ami, » répondit-elle. « Amenez-moi votre femme. Aussi bien je me sens tellement brisée qu'il me semble que je vais mourir. » La livide pâleur de la jeune fille et le tremblement de tous ses membres confirmaient d'une façon sinistre la triste signification de ses dernières paroles. Le mari de Claudine se hâta de reprendre le chemin de sa maison en murmurant à part lui. « Pauvre demoiselle, pauvre demoiselle, pourvu qu'il n'arrive pas un second malheur cette nuit. » Jeanne, se trouvant seule, fit quelques pas pour sortir de la salle basse et gagner le premier étage. Mais les forces lui manquèrent pour marcher. D'ailleurs, une sorte d'épouvante instinctive l'éloignait de cette chambre haute où gisait un cadavre sanglant. Elle se laissa tomber sur un siège. Elle cacha sa tête entre ses deux mains et des larmes muettes roulèrent une à une entre ses doigts. Peu à peu, ses larmes se séchèrent. Les mains de Jeanne se disjoignirent. Elle releva la tête, et ses yeux, fixés sur le vague, semblèrent regarder quelque chose avec un effroi profond. Ce qu'elle regardait ainsi, c'était une pensée horrible qui venait de se présenter à elle. Elle essayait de chasser bien loin cette pensée, elle la repoussait de toutes les forces de son âme, comme un impardonnable outrage à Madeleine, à peine refroidie, mais cette pensée fatale revenait sans cesse, à chaque instant plus forte, plus lumineuse, et s'entourant de présomptions de plus en plus irrécusables. Jeanne accusait sa mère. Elle l'accusait d'une tentative d'assassinat que le doigt de Dieu avait tournée contre elle-même. Et cette accusation, basée sur ses souvenirs, se déduisait avec une logique foudroyante de tous les faits qui venaient de se passer. Madeleine, en effet, si hostile d'abord pour Raoul blessé et mourant, ne s'était-elle pas adoucie subitement, en apprenant que le jeune homme avait apporté avec lui dans sa maison une énorme somme en or? N'avait-elle pas interrogé Jeanne au sujet de cette fortune, avec l'émotion avide de l'avare et du voleur? N'avait-elle pas renouvelé ses questions aussitôt après le départ du valet de Raoul, en s'informant si la cassette que contenaient les pièces d'or n'avait point disparu? Ce breuvage, qui devait plonger M. de la Tremblay dans un assoupissement léthargique, c'était elle qui l'avait fourni, elle qui en avait conseillé, presque ordonné l'emploi. « Eh bien, » avait-elle demandé à Jeanne au moment où cette dernière quittait la chambre du malade, « eh bien, a-t-il bu ?»« Oui, » avait répondu la jeune fille. « Et maintenant ?»« Maintenant, il dort ?» Jeanne se souvenait de l'expression joyeuse qui était venue éclairer alors le visage de sa mère et de l'accent étrange avec lequel elle s'était écriée. « Il dort ? C'est bon signe !» À partir de cet instant, les preuves s'accumulaient et devenaient de plus en plus lumineuses. Madeleine, cela était évident, s'était traînée hors de son lit et avait poussé les verrous de la porte qui séparait sa chambre de celle de sa fille. Elle avait détaché de la muraille le poignard à lame dentelé, héritage de Guillaume de Chambard. Elle avait trouvé dans la passion infernale de l'or les forces nécessaires pour descendre l'escalier. Mais ces mêmes forces lui avaient fait défaut à l'heure suprême où le crime allait s'accomplir, et la céleste justice, s'éveillant tout à coup, avait permis que l'arme meurtrière se teignît du sang de la coupable au lieu de répandre celui de la victime désignée.
une sorte de vision rétrospective permit à Jeanne d'assister à tous les détails de la scène terrible que nos lecteurs connaissent déjà et qui lui apparut jusque dans ses moindres détails. Elle se fit violence pour ne point se laisser entraîner à avoir horreur de sa mère. Elle se jeta à genoux et elle s'écria avec une ardente ferveur. « Mon Dieu, Dieu juste et puissant, vous qui venez de sauver un innocent et de punir une coupable du crime qu'elle projetait d'accomplir. Mon Dieu, que votre vengeance ne poursuive point ma pauvre mère en dehors des limites de cette vie. Ayez la clémence, vous qui avez la force. Pardonnez, mon Dieu, pardonnez. » Après cette prière, Jeanne se sentit plus calme. Elle envisagea avec une sorte de sang-froid toute l'horreur de sa position. Cette position était effrayante et ne semblait point avoir d'issue. La malheureuse enfant se trouvait à 16 ans, orpheline, sans abri, sans ressources. Pas un toit ne s'offrait à elle pour abriter sa tête. Pas une main amie ne se tendait vers elle pour serrer la sienne. Où aller? Que devenir? Où chercher? Où trouver le pain de chaque jour? Jeanne ne pouvait résoudre aucune de ces tristes questions. Cependant, sa tête ne s'égara point, et elle se dit avec cette résolution forte et résignée qui ne peut naître qu'en face des grandes infortunes. Dieu viendra peut-être à mon aide. Et d'ailleurs, la mort offre un large refuge à tous ceux pour qui la vie est impossible.